France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touré.
Pour le magazine de l'éducation de France Culture, le mercredi à 14h en direct ou en podcast, bien sûr, un peu quand vous voulez. Aujourd'hui, élection municipale, un scrutin décisif pour l'école et les enfants. Savez-vous que l'éducation représente fréquemment le premier budget des municipalités ? Alors quand nous voterons dimanche, nous voterons beaucoup pour l'école, les bâtiments, la cantine, le transport scolaire, le maintien ou non de classe et tout ce dont on parle dans les conseils d'école. On va y revenir, hein, aux conseils d'école, ces écoles qu'on appelle d'ailleurs en France les écoles communales. Nos bulletins de vote compteront aussi pour toute une série de services publics éducatifs locaux, les bibliothèques, les lieux d'accueil des jeunes, les infrastructures sportives. Et puis, après les élections, une question qu'on va se poser, c'est comment les élus et leurs services éducation travaillent ces dossiers, parfois techniques, s'y forment ? Parce qu'il faut se former hein, pour bien mener sa barque dans ces dossiers très compliqués où on a affaire à ses administrés, mais aussi à l'État, l'État central, et puis à l'éducation nationale. Ils vont donc prendre, ces élus et ces services techniques, des décisions qui comptent beaucoup dans le quotidien des administrés. Les élections municipales sont celles qui concernent le plus les enfants et leurs parents et tous ceux qui s'en occupent et s'en préoccupent. Alors combien pèse ce sujet lors du choix du vote ? C'est aussi une question qu'on va se poser alors que le lien historique entre les communes et les écoles est si étroit en France.
Dans chaque village de France, une petite école, ou même relativement grande, avec un instituteur, et un instituteur voué à sa tâche, passionné pour apprendre les éléments aux enfants des paysans du village. Et l'école était devenue un centre du village, et l'instituteur, bientôt secrétaire de la mairie, dirigeait toute l'administration du village.
Michel Debré, homme politique du XXe siècle sur l'école communale de la Troisième République, c'était en 1978 sur TF1. On prend des références bien anciennes hein, pour pas peser sur ce scrutin, pour pas parler de partis politiques d'aujourd'hui. Ça va être un des enjeux de cette émission. On va essayer d'expliquer ce lien entre les maires et les mairies et les écoles publiques et privées d'ailleurs de nos villes et villages en France. Cette histoire, en fait, elle est un peu plus longue que celle qui pourrait remonter à la Troisième République, Daniel Charbonnel. Vous êtes entre autres, je vais donner tous vos titres au fur et à mesure, historien, vous avez un master d'histoire contemporaine sur l'histoire de l'école communale au 19e siècle, donc on remonte un petit peu hein, avant la Troisième République, parce que cette histoire, elle est longue, cette histoire du rapport entre les villes et même les villages plutôt, si on parle de cette époque, et les écoles.
En effet, alors vous parlez du 19e siècle, en effet, moi, je considère qu'on est vraiment rentré dans le vif du sujet de l'école communale en 1816. Et à partir de là, on a bâti petit à petit jusqu'à la loi Guizot,
voilà,
1833.
Avant la loi Guizot qui généralise l'école.
Et la loi Guizot, le 28 juin 1833, qui imposait aux communes d'être propriétaires, et non pas seulement locataires comme quelquefois, d'au moins une école.
Avant de passer à la fameuse loi Ferry et puis l'école gratuite
alors,
quand, et obligatoire.
Oui, alors, on dit beaucoup de choses sur Ferry, mais en effet, quand il est arrivé, les structures étaient faites. Les lois Ferry, c'est les premières lois où on ne parle pas de construire des écoles, on ne parle pas d'élargir aux filles, par exemple, l'école, puisque c'était déjà fait. Il y avait beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Ferry, il a fait ce qu'on a appelé la gratuité, on pourra sûrement en reparler. La laïcité, et l'obligation. une vraie obligation qui était déjà inscrite, mais pas forcément toujours respectée.
En fait, c'est toute une continuité. Et si on s'intéresse à l'histoire, alors c'est pas tout à fait l'objet de cette émission qui est d'être une émission historique. On a des gens qui font ça très bien à France Culture. Mais on peut même remonter à avant la Révolution française. C'est ce que fait l'historien Côme Simien qui explique que, en fait, l'école n'a pas été l'affaire seulement des religieux. Au contraire, des communautés, puisque je ne parle pas encore de communes, et je parle un peu sous votre contrôle, Daniel Charbonnel s'y intéresse. C'est déjà au fait de proposer une éducation locale en payant des professeurs, des maîtres, pour que les élèves puissent s'instruire.
Oui, encore qu'à l'époque, c'était surtout ce qu'on appelait l'écolage, c'est-à-dire que c'était les parents qui payaient.
Oui.
Et on en reparlera de la gratuité de l'école avec Jules Ferry, notamment, justement, je pense.
Je crois que c'est très important pour les administrés français aujourd'hui, ce lien qui permet aussi d'avoir des écoles où, là, c'est l'État qui paye les professeurs, mais c'est l'école qui s'intéresse, par exemple, au bâti scolaire et à plein de sujets. C'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage « La commune, le maire » ou la mère, d'ailleurs, et l'école, publiée aux éditions territoriales. J'ai pu le lire en ligne, il est pas trop facile à trouver, Daniel Charbonnel. Avec nous également dans ce studio, Rosane Merien, bonjour. Vous êtes directrice administrative, en fait, dans une commune. On va pas citer de nom, pareil, pour pas rentrer dans des précisions locales. C'est pas l'objet de cette émission. En fait, on parle local avec un S ou avec une majuscule, peut-être. En tout cas, vous occupez d'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture. Et c'est souvent réuni en France, dans une ville d'Île-de-France. Vous êtes présidente, et ça nous intéresse beaucoup, de l'Association nationale des directeurs, directrices d'éducation des villes, parce que ce sont des services importants. Alors, on va détailler tous les sujets, mais déjà, je voudrais m'arrêter sur cette histoire de budget. Est-ce que ça pèse lourd? À quel point, suivant les communes, est-ce que c'est souvent, par exemple, le premier budget des municipalités, l'éducation?
Alors, l'éducation, en règle générale, c'est le premier ou le deuxième budget d'une collectivité, parce que l'investissement d'une commune peut être variable. À la fois dans son budget et variable. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, son implication, on va dire, dans la vie de l'enfant, dans l'organisation des temps de l'enfant, peut aussi être très différente. On considère en gros que dans une collectivité, l'éducation, c'est-à-dire tout ce que vous évoquiez, c'est-à-dire l'école, mais également l'accueil de loisirs périscolaires, les centres de vacances, enfin toute l'organisation aussi des temps de vacances de l'enfant, vont représenter près de 30%. Du budget de la commune, et ça peut aller dans des collectivités très engagées. Si on élargit également au champ de la culture, par exemple à l'éducation artistique et culturelle, au champ sportif, jusqu'à 50% du budget d'une commune, si on prend en compte l'ensemble des personnels qui accompagnent l'enfant, mais également toute la gestion du bâti scolaire, qui est un volet très important aussi pour les collectivités.
Alors, ça dépend de la démographie. C'est une question démocratique, mais qui dépend de la démographie de la commune. Il y a plus ou moins une population jeune, peut-être de la couleur de la municipalité, mais aussi de tradition. En fait, quand je me suis intéressée au sujet, j'ai vu que c'était assez transpartisan, beaucoup plus qu'on ne le croit.
Alors, effectivement, jusqu'à présent, l'éducation était une priorité de l'ensemble des villes. C'était vraiment un élément structurant des projets municipaux. Et ça, j'ai envie de dire, jusqu'au dernier mandat. À l'aune de ces prochaines élections, nous, en tant que cadres territoriaux, on a de petites inquiétudes. Parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, il y a d'autres priorités qui, en tout cas, monopolisent le discours politique et notamment toutes les questions de sécurité qui sont des préoccupations des citoyens et des citoyennes, les questions de propreté et qui mettent, on va dire, l'éducation dans une dimension secondaire, alors que la question éducative, elle reste une politique municipale centrale dans les compétences de la ville et avec un investissement, comme on l'a dit, qui peut être différent en fonction des collectivités.
Alors, vous prêchez forcément, Rosane Marin, pour votre paroisse, qui est l'éducation.
Oui.
C'est un peu la mienne aussi, mais ne peut-on pas se demander si ça répond pas à des demandes des électeurs qui auraient bougé? Après tout, si on parle de démographie, on fait moins d'enfants en France, la population vieillit. Donc, logiquement, les électeurs, et particulièrement ceux et celles qui votent, qui vont vraiment faire le déplacement ou faire une procuration pour que leur bulletin compte, s'intéresser un peu moins à ces enjeux-là.
Oui, alors c'est vrai que c'est une réalité. Il y a de multiples enjeux en France, dans un contexte qui est un contexte d'incertitude assez fort. Maintenant, moi j'aurais envie de dire que nécessairement, en tant que citoyen et citoyenne, on doit s'intéresser à la question éducative, au moins pour deux raisons. La première, c'est, on l'a vu, c'est une partie du budget importante, donc il y a une raison très pragmatique à ça. Et la seconde, c'est qu'on est quand même dans un investissement essentiel pour les enfants et les jeunes, et donc quelque part pour notre société, pour l'avenir de notre République également. Et si on vient sur des dimensions plus opérationnelles ou plus pragmatiques, on est dans une situation où ça, on touche vraiment à la vie quotidienne des familles, des enfants, des jeunes, avec des communes qui vont s'impliquer, vous l'avez dit, dans la construction, dans l'entretien des écoles, sur la restauration scolaire, sur l'accueil de loisirs, mais également dans toutes les politiques en fait qui vont concerner le jeune de 0 à 25 ans, donc également les politiques petite enfance et les politiques jeunesse. Donc de manière encore plus concrète, la municipalité, en tout cas le vote pour les élections municipales, c'est aussi choisir le nombre d'ATSEM que vous allez avoir dans les classes maternelles qui vont accompagner les enseignants et les enseignantes. C'est choisir aussi l'ambition qu'on va porter pour la rénovation thermique des bâtiments, la végétalisation des cours d'école, pour gérer les vagues de chaleur. Ça va être la question aussi de la cantine à 1 euro ou la cantine gratuite même dans certaines collectivités. Donc on voit qu'on a aussi cette dimension à la fois d'anticipation sur des problématiques liées à la transition écologique, mais également un enjeu social en fait dans l'accompagnement des familles pour réduire ou accompagner la réduction des inégalités sur un territoire.
Pour peu que ce soit le but de la maire, mais on voit que ces dossiers en recoupe d'autres, par exemple, avoir des lieux pour les jeunes, c'est aussi peut-être au service de toute la population. Mais là, je retrouve le sujet de mon émission du 25 février. On a beaucoup parlé de la ville à hauteur d'enfance, qui est aussi un sujet municipal. Je m'arrête sur la question des ATSEM. Donc, c'est un personnel très important dans les écoles maternelles, puisque elles sont là pour travailler avec les professeurs des écoles, je dis elles parce que je pense qu'on parle très majoritairement.
99% vraisemblablement.
Voilà, de femmes, donc on peut largement féminiser. Et que ces personnels qui sont essentiels pour encadrer un peu le fonctionnement de la classe, aider aux soins, parce qu'on parle de soins aussi quand on est avec des petits-enfants, sont payés par les municipalités, mais c'est pas du tout le seul personnel qui est payé par les communes. Mais,
alors, depuis la loi de 1889, c'est l'État qui paye les enseignants.
Ça,
mais
c'est
que,
bon.
Mais vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, que les enseignants. Et d'ailleurs, Jules Ferry, on a décrété l'école gratuite, mais c'était les communes qui payaient les enseignants. Alors, il y avait quelquefois des subventions qu'on appelait à l'époque des secours. Mais les communes payent, en effet, les ATSEM, qui, au départ, on pourrait dire, étaient des dames de service, il y a plusieurs décennies. Et puis, petit à petit, mais dans un souci d'enrichir leurs tâches et à leur demande aussi, elles sont devenues de véritables auxiliaires de l'éducation nationale dans les classes. Et il y a ça. Alors, et en effet, il y a les ATSEM, mais de plus en plus, les communes sont appelées à payer des intervenants, que ça soit dans le sport, dans la culture, la musique notamment, pour accompagner les enseignants qui, en élémentaire, peuvent pas tout faire, c'est évident. Mais il y a une vraie pression d'ailleurs là de la part notamment des parents d'élèves, alors des enseignants et des parents d'élèves. Ce qui fait, vous vouliez parler tout à l'heure, vous avez évoqué les conseils d'école, j'anticipe peut-être un peu, mais ce qui fait que dans les conseils d'école, on a une alliance objective entre les parents et les enseignants contre la municipalité souvent, ou enfin contre, c'est peut-être un peu fort, mais enfin quand même un peu en opposition. Ce qui est d'ailleurs très particulier parce que les parents d'élèves, ce sont les contribuables, ce sont eux qui payent. Normalement, le conseil d'école, c'est fait pour qu'on demande aux enseignants ce qu'ils font des moyens que l'on attribue à l'école. Or, c'est pas comme ça que ça se passe.
On va s'arrêter sur ces conseils d'école.
Voilà.
On est dans le sujet, vous anticipez. D'accord. Pas, on y est. Parce que le conseil d'école, c'est un lieu de démocratie locale absolument passionnant. enfin, je dis ça, mais moi, on en a parlé, j'ai jamais participé moi-même à un conseil d'école, peut-être parce que je suis pas cadre d'éducation dans une ville, Rosane Mérien, ni enseignante, ni parent d'élèves délégué, mais ça réunit un peu tout le monde. Et ça discute des sujets sur lesquels parfois on n'est pas d'accord. Ça peut être l'organisation des rythmes scolaires, par exemple. Rosane Mérien, pour parler d'un sujet qui a beaucoup fâché, ou parfois dont on était content de se débarrasser. Enfin, ça dépendait des communes, ça dépendait des professeurs et des parents. Mais là, il y a des rapports de force, il y a des discussions. Comment ça se passe? Décrivez à nos auditeurs et à nos auditrices. Ce que c'est qu'un conseil d'école, pour commencer?
Alors effectivement, vous revenez sur une page de l'histoire de l'éducation au niveau des conseils d'école sur la réforme des rythmes scolaires, qui a été un moment particulièrement, on va dire, épique, voire alors, tendu dans les conseils d'école.
Qui est là, alors, dans le conseil d'école?
Alors, dans le conseil d'école, il est présidé par le directeur ou la directrice de l'école. Et ensuite, vous allez retrouver l'ensemble des enseignants qui sont présents. Vous allez avoir également un représentant des ATSEM, un représentant de l'enseignement spécialisé, donc le RASED, qui accompagne les enfants en difficulté. Et vous allez avoir également les parents. Donc là aussi, vous avez de mémoire un parent en fonction du nombre de classes représentant chaque classe. Et vous allez avoir donc la troisième représentation, qui est le maire de la commune ou son représentant. Donc il peut déléguer au maire adjoint ou à un conseiller municipal qui va donc représenter la commune au sein de ce conseil d'école. Donc ils se réunissent 2 à 3 fois par an, donc chaque trimestre en règle générale, avec des ordres du jour, on l'évoquait, qui devraient effectivement être centrés sur la question du projet d'école, c'est-à-dire le contenu pédagogique de la vie des enfants, de ce qui est proposé aux enfants, des apprentissages des enfants, parce que l'école est là pour accompagner l'épanouissement, l'émancipation des enfants. Mais parfois, dans ces conseils d'école, on se retrouve à parler beaucoup de gestion de bâti, beaucoup de budget, de fourniture scolaire, d'organisation des classes de découverte. Donc, il y a parfois, un déport sur les responsabilités ou les compétences des collectivités, qui font que les échanges peuvent être effectivement parfois un peu tendus. On l'évoquait, dans une relation triangulaire où on va avoir les représentants de l'école, les parents, et la municipalité, et parfois des alliances qui vont se faire assez naturelles, liées à la relation du quotidien entre les acteurs locaux de l'éducation nationale et les parents. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à maintenir effectivement une dynamique qui soit bien centrée sur le projet d'école, en lien avec le projet éducatif de la ville. Donc d'articuler tout ça dans l'intérêt de l'enfant.
Projet éducatif, mais ça peut être plus même un projet de vie quotidienne. Quand on parle du bâti scolaire, qui est un sujet brûlant, pour le coup, en juin, ça peut le devenir au sens propre. Il y a des demandes avec des communes qui n'ont pas forcément les finances pour y répondre. Daniel Charbonnel, sur le conseil d'école.
Oui, je crois que, je ne sais pas si notre interlocutrice sera d'accord, je crois qu'il faudrait bien distinguer les conseils d'école qui, vous l'avez dit, sont sous la responsabilité du directeur ou de la directrice de l'école, et des commissions scolaires qui, là, fonctionnent sous l'autorité du maire ou de l'adjoint délégué, et qui sont là pour, en effet, réfléchir à l'affectation des moyens. Quels moyens on met, enfin, c'est des propositions, une commission, et bien évidemment, elle ne décide pas, c'est le conseil municipal, mais quels moyens on met, pourquoi, c'est là que devrait... Alors, la question, c'est est-ce que l'on fait des commissions scolaires élargies, ouvertes, ou pas? Moi, je préconise que l'on fasse des commissions scolaires ouvertes, où il y a les parents d'élèves, voire les enseignants aussi. Mais on ne mélange pas ce qui se passe à l'école... Est-ce que l'on décide dans la commune? Enfin, il faudrait essayer de faire... On ne mélange pas. Ouais. C'est peut-être exagéré comme terme. Mais il faudrait quand même faire une distinction des deux domaines, qui sont des domaines très différents d'organisation.
Alors ça, c'est presque de la science politique. C'est qui décide de quoi où, avec des consultations désintéressées. Et finalement, à l'école, c'est quand même censé fonctionner comme ça. est censé se faire, mais est-ce que justement les maires et les cadres éducation dans les villes sont à l'écoute? Est-ce qu'ils sont formés pour ça dans des dossiers qui sont parfois très techniques, parce que demander des financements parfois à l'État pour aider la commune, c'est très très complexe. Comment écouter les citoyens? Parce que il y a le conseil d'école, mais il y a assez peu de parents d'élèves, et même si les élections de parents d'élèves sont assez importante, ça n'arrive jamais à représenter toutes les nuances possibles et les besoins des parents qui ne sont pas tous au courant, en fait, que ces élections existent, qu'ils peuvent être représentés, et même qu'un conseil d'école existe. Donc comment on fait pour que les maires, question très simple, connaissent les besoins éducatifs de leurs administrés?
Je crois que les maires sont habitués à aborder un peu tous les sujets. Donc, peut-être que celui qui arrivera le 16 mars, le lendemain des élections, il connaîtra pas forcément tout, mais il va s'y habituer. Cela dit, mon expérience fait que j'ai vu des maires enseignants de l'élémentaire, du premier degré, qui n'étaient pas forcément les meilleurs spécialistes de l'école quand il s'agissait de l'organisation au niveau de la commune. Voilà, donc je crois que tout s'apprend. Il faut surtout que les élus ils prennent en compte... moi, j'ai souvent l'habitude de dire, un élu, il doit prendre en compte des besoins que lui-même n'a pas. C'est la différence avec le citoyen. Le citoyen, il se préoccupe beaucoup de ce qui l'intéresse à lui. Mais un élu, il doit se préoccuper de tout et prendre en compte des besoins qu'il n'a pas. Donc, je pense qu'avec un peu, rapidement, avec un peu d'expérience, les élus sont capables d'aborder ces questions-là.
Mais on les forme, puisque vous les formez.
Oui, alors...
Alors, ça fait partie de votre présentation, parce que je n'ai pas lu tout, parce que c'était très long. Vous êtes formateur pour des élus locaux?
Oui, notamment...
En Isère et en Savoie?
Oui.
Notamment dans le domaine scolaire.
Il
y a des savoirs.
Oui, tout à fait.
Acquérir, alors, maîtriser.
Ce que j'explique souvent, c'est que cette formation, en fait, elle est faite pour que les élus qui s'occupent du scolaire, éventuellement d'autres, même ceux qui sont dans la commission scolaire, ils ne sont pas forcément opérationnels, mais ils maîtrisent la plupart des sujets, y compris ce qui se passe dans l'école, qui ne relève pas vraiment de la commune, mais il faut, si on veut aborder le sujet correctement du côté municipal, il faut absolument avoir l'ensemble des données, y compris ce qui se passe dans l'école, et qui relève du directeur de l'école. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre, si vous me permettez l'expression, son nez dedans. Hein. Mais il faut savoir, en face des enseignants, il faut qu'on sache, eux, quelles sont leurs contraintes.
Donc le travail notamment d'un élu local, c'est d'écouter aussi.
Oui, beaucoup, avant de prendre des décisions, bien sûr. Mais ce n'est pas que les élus locaux, je pense que tous les gens qui ont des responsabilités doivent le faire.
Au niveau local, c'est peut-être plus facile, en tout cas, c'est un élu qu'on peut plus souvent...
C'est entre gens où on se connaît souvent, enfin, à part dans les très très grandes villes, mais dans les villes plus petites.
Et dans les villes plus grandes, il y a des arrondissements, donc peut-être que c'est une échelle à laquelle on a plus accès aux élus. Parmi les dossiers importants des maires, il y en a un qui concerne beaucoup d'enfants. Tous les jours.
Est-ce que tu préfères manger à la cantine ou manger chez toi?
Manger à la cantine.
À la cantine. Chez moi.
Ouais. C'est meilleur?
Bon, c'est pas toujours meilleur, mais je trouve qu'on a une entente familière un peu mieux quelquefois.
Est-ce que tu aimes manger à la cantine?
Oui. Oh oui, parce qu'il y a des copains et puis on mange bien.
Oui.
Pourquoi?
Parce que j'habite loin.
Non?
Non, j'aime pas manger à la cantine parce que c'est pas très bon en plus, je préfère manger chez moi.
Oh, ça me dérange pas, mais à la cantine on est plus avec les copains quoi, alors on peut s'amuser.
Alors pourquoi aimes-tu la cantine?
Parce qu'on est avec ses camarades, on s'amuse mieux.
Un son de 1975, c'était un reportage télévisé avec une diction qui date bien, on l'entend, hein, de 1975, un sujet complètement d'actualité. La cantine, on en reparle cycliquement, c'est une compétence communale avec des demandes des administrés qui sont d'ailleurs pas toujours les mêmes. Il n'y a pas que le prix de la cantine, il y a la qualité de l'alimentation qui est proposée. Et est-ce qu'elle correspond? Alors là, c'est peut-être un combat un peu personnel que je verse au débat de cette émission. Est-ce que ça correspond au goût des les enfants, est-ce qu'ils vont vraiment manger ou non. Ça fait partie des gros, gros sujets pour les communes, Rosane Mérien. Il y en a plein d'autres, hein, mais
effectivement,
je vais partir de là.
Ouais, la cantine, c'est le temps sur lequel on accueille le plus grand nombre d'enfants. C'est-à-dire 100% des enfants sont à l'école. Et sur un temps de restauration scolaire, dans certaines villes, on va aller jusqu'à 90% de la population scolaire qui est inscrite à la cantine et qui fréquente régulièrement le temps de restauration scolaire. Alors effectivement, on parle de la dimension alimentation, mais ce temps-là, c'est un vrai temps de pause en fait. Il y a le temps du repas, mais il y a aussi tout ce qu'on va faire autour du temps du repas, qui va constituer en fait un espace de ressourcement, on va dire, pour les enfants entre deux temps d'apprentissage. Donc l'enjeu de ce temps-là, c'est bien que l'enfant, comme pour nous, sur notre temps de déjeuner, eh bien puisse trouver la ressource suffisante pour pouvoir repartir en étant complètement disponible sur le temps d'apprentissage qui va suivre l'après-midi. Donc il y a un enjeu d'alimentation, donc les communes sont très engagées, alors on a des obligations aussi dans le cadre de la loi Egalim pour avoir un certain nombre de d'aliments bio par exemple, une restauration qui soit durable, en circuit court, donc il y a des enjeux en termes qualitatifs parce que la cantine et la restauration c'est aussi un enjeu de santé publique pour les enfants, santé publique dans la qualité des aliments qu'on va fournir, mais santé public aussi sur la façon dont on va accompagner les enfants dans l'apprentissage de l'équilibre alimentaire. Et ça, c'est aussi un temps très important. Donc effectivement, on va présenter, vous évoquiez le fait que des fois, les enfants rentrent en disant « c'était vraiment pas bon, je n'ai rien mangé que du pain ». C'est effectivement des choses qu'on
vous
entend.
Vous connaissez vos dossiers.
Oui. et donc, effectivement, dans nos menus, eh bien, on va présenter différents aliments qui peuvent être des aliments qui sont différents de ceux qui sont présentés à la maison. Mais c'est aussi un enjeu éducatif de pouvoir accompagner l'enfant dans la découverte alimentaire.
Alors, on a parlé du temps de la cantine, on va évoquer le périscolaire. On accueille avec nous à distance Étienne Butzbach. Bonjour.
Bonjour.
Oui, alors on vous entend peut-être pas très bien. Vous êtes président de la Fabrique des communs pédagogiques. On va parler avec vous tout à l'heure des conseils municipaux d'enfants. Alors parmi, donc on a dit les compétences des communes, il y a ce moment très important de la cantine et du périscolaire qui représente presque une heure et demie, voire deux heures dans la journée de 90% parfois, hein, des petits élèves. Comment expliquez-vous que ce dossier paraissent parfois si négligés, on l'a vu, avec la question du périscolaire.
Alors, il y a dans la façon dont les collectivités, alors je dis les collectivités au sens large, hein, parce que la loi de décentralisation a fait aussi que des collectivités comme le département ou la région ont pris de plus en plus d'importance dans le champ éducatif. Mais au niveau des communes, il y a un développement ces 20-30 dernières années, et d'ailleurs l'ANDEV, comme le réseau français des villes éducatrices, en est le reflet d'une volonté d'un certain nombre de communes de prendre en charge la question éducative de façon plus globale. Il y a bien sûr l'école, et on pourrait rajouter à ce que vous avez évoqué sur la restauration scolaire aussi le problème de la mixité sociale à l'école, hein, puisque la sectorisation des écoles est aussi de l'ordre de la responsabilité des communes. Hein. Donc là, il y a un rôle important que les communes peuvent jouer sur cette question de mixité sociale. Et puis, il y a aussi cette montée en puissance de finalement l'environnement éducatif de l'école, ce qu'on appelle l'éducation non formelle, qui s'est développée fortement ces 23 dernières années.
Alors je vais reprendre la parole parce que le son n'est pas de très très bonne qualité, Étienne Butzbach, mais je vais repasser la parole aux invités qui sont avec nous dans le studio, Daniel Charbonnel, sur l'importance du périscolaire. On a vu des affaires dans plusieurs villes, parce que ça n'a pas concerné que la capitale, des affaires qui ont parfois été menées devant la justice, en tout cas des plaintes de parents concernant les animateurs du périscolaire et des agressions sexuelles. C'est un moment qui a peut-être été un peu suggéré, alors pas partout, mais dans quelques communes, et qui inquiète à raison les parents. Ça, c'est vraiment un dossier pour les maires.
En effet. Alors, moi, enfin, de l'expérience locale que j'ai comme notamment comme parent, il y a très longtemps maintenant, mais ça m'étonne que les commune n'ait pas fait les vérifications nécessaires. Cela dit, un délinquant, il ne commence à être catalogué que quand il a fait son premier méfait. Hein. Donc voilà. Alors je sais pas, mais en effet, il faut être très très vigilant. On l'a vu. Alors on monte aussi peut-être beaucoup en épingle parce que Rosen disait on va jusqu'à 90% des élèves qui mangent à la cantine. Il y a J'ai plus le chiffre en tête, mais il y a plusieurs centaines de milliers d'élèves au premier degré. Hein, pour au premier degré, on n'a pas, heureusement, eu peut-être énormément de...
C'est peut-être voilà. Quelque chose qu'il faut pouvoir vérifier les communes.
Oui.
C'est cette gestion, et ça amène une question hyper importante, parce que monter en épingle, alors personnellement, je ne le pense pas, mais ce sont des faits très graves. Comment savoir, Rosen Meyrien, si sa ville... Déjà, bon, on a parlé du budget, consacre un budget conséquent à l'éducation, et s'occupe bien de ce sujet, donc du périscolaire, périscolaire, c'est-à-dire recrute avec attention à un suivi RH hein, des animateurs, animatrices pour gérer les problèmes, les prévenir, faire en sorte qu'ils n'arrivent pas et former ces personnels. On a évidemment consacré une émission au périscolaire récemment. On a beaucoup parlé de formation et finalement une formation qui est tout à fait insuffisante. Et la vraie question derrière, c'est est-ce que ce sujet n'est pas en train de faire énormément de mal aux élus locaux ?
Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous évoquez. Pour revenir sur cette situation des agressions sexuelles qui ont effectivement pas mal émaillé la question d'actualité concernant les accueils de loisirs, il y a un élément qui est important, c'est que on est aussi dans une plus grande expression des enfants. C'est-à-dire que tout enfant qui à un moment témoigne, tout enfant qui est victime et qui s'exprime, c'est un élément important. Ça veut dire qu'on a aussi laissé la place à la parole de l'enfant, qu'on a écouté l'enfant et qu'on a engagé un dispositif de protection. On sait qu'il y a 160 000 enfants qui sont victimes.
Dans le meilleur des cas, parce que ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'animateurs qui pouvaient être déplacés parfois.
Et oui, alors après j'y viens.
Les plaintes n'étaient pas toujours entendues.
Oui. Alors effectivement, il peut y avoir, mais en règle générale, moi j'ai envie de vous dire, déjà dans une collective, dans une ville, quand vous recrutez un animateur, vous répondez à des normes du ministère. De l'État concernant l'organisation de ces accueils collectifs de mineurs. Et donc, vous avez des normes en termes de taux d'encadrement, de diplômes, avant même de recruter vos animateurs. Ensuite, il y a un certain nombre de vérifications qui se mettent en place et qui sont préalables au recrutement. C'est-à-dire que vous allez vérifier le casier judiciaire. Ça, c'est une obligation pour tout fonctionnaire. Et donc, vous allez voir là quelles sont les mentions. S'il y a des mentions qui sont portées, on ne recrute pas l'animateur. Et en second lieu, on a aussi l'obligation de consulter le FIGES, donc qui est le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, dans lequel sont répertoriés effectivement toutes les personnes qui ne doivent plus être mises en contact de mineurs dans le cadre de ce fichier national.
Donc ça, c'est la règle, la bonne règle.
Ouais.
Comment vérifier en tant qu'administré que ces règles sont bien suivies ? Par ma commune, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas encore d'enfant scolarisé, mais qui aimerait bien savoir comment ça se passe dans sa ville. Comment on peut connaître, prendre connaissance de ces informations, de même que celles du budget. Enfin, c'est assez opaque finalement du point de vue du citoyen, de la citoyenne.
Oui, alors. Tous les éléments que je vous ai évoqués, c'est des obligations préalables. C'est-à-dire que nous, en tant que collectivité, en tant qu'employeur, le maire a l'obligation de faire ces vérifications au préalable. Donc vous pouvez tout à fait demander en tant que parent, et nous on le fait, on a des courriers qui sont déjà prêts pour pouvoir répondre individuellement à chaque parent qui nous interrogerait là-dessus, où on va effectivement expliquer le cadre de l'organisation de ces accueils collectifs de mineurs, au regard effectivement d'une actualité qui peut être anxiogène pour les parents. Donc vous avez tout à fait la possibilité de demander la procédure qui est mise en place dans votre collectivité et qui, a pour obligation de respecter le cadre national. Vous avez aussi la possibilité, et ça les parents le vivent au quotidien, c'est-à-dire une fois que votre enfant il est dans un accueil de loisirs, vous avez la relation directe avec le directeur d'école, les animateurs. Donc là, vous avez aussi une relation qui vous permet d'être dans le dialogue, dans un dialogue quotidien avec les équipes et d'avoir une vision aussi de la façon dont on a mis en place des mesures de protection. Ensuite, les villes mettent en place aussi des actions de formation. On va dire, prévenir ou en tout cas être sûr qu'on aura, comme vous l'évoquiez, la bonne démarche, les bonnes attitudes à partir du moment où on a l'expression de la parole d'un enfant. C'est-à-dire être en capacité pour les animateurs de recueillir cette parole et qu'on ait une procédure qui soit suffisamment claire pour qu'effectivement cet enfant soit entendu et protégé. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on développe déjà depuis plusieurs années dans les collectivités et qui se sont encore accrues nécessairement avec le contexte qu'on connaît actuellement. Donc, j'ai pas répondu à la deuxième partie de votre question, sur la question du budget.
Le budget, oui, comment
savoir ? Même chose. Alors, vous avez le budget, il est voté chaque année par le conseil municipal. Donc, il y a une présentation d'un rapport d'orientation budgétaire qui va donner les grandes orientations du budget annuel et ensuite le vote de ce qu'on appelle le budget primitif, qui est le budget qui va se mettre en œuvre sur l'année en cours. Ça, c'est des éléments qui sont des éléments publics. Mais vous pouvez aussi tout à fait, dans le cadre des conseils d'école, dans le cadre des conseils de quartier, par exemple, interroger votre élu, le maire, sur la part du budget qui est consacrée à l'éducation dans la ville, sachant, comme je le disais, il y a bien sûr la gestion des écoles primaires, mais il y a une vision très élargie aussi de l'éducation qui intègre tous les temps de loisirs de l'enfant, mais également, vous l'évoquiez, toutes les dimensions sportives ou culturelles, comme les projets d'éducation artistique et culturelle, ou le savoir nager qu'on va mettre en place dans les écoles, ou encore le savoir rouler à vélo, qui est aussi une démarche qu'on initie sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire.
En entendant savoir nager, parce que les piscines en France, c'est un énorme problème. Il y a beaucoup de communes qui n'ont plus de piscines, faute d'entretien. Donc on dit savoir nager, mais derrière, en fait, l'investissement pour les communes est parfois énorme. Alors, il n'y a pas que les communes, il y a l'intercommunalité, mais ça fait un sujet de plus, une dépense de plus, qui n'est pas forcément priorisée. Bon, ça dépend, pour lesquelles parfois des aides de l'État sont attendues, parce que dans le savoir nager, il y avait ça, il y avait des aides. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très très complexe dans la vie d'un édile et puis de ses services dédiés à l'éducation. J'imagine que ça marche aussi pour d'autres services. C'est la multiplicité des sujets. J'avoue, Daniel Charbonnel, que quand j'ai lu le sommaire de votre livre, la commune, le maire et l'école, j'ai été prise d'un vertige. Il y a énormément de sujets. Vous parlez de la laïcité, au bout d'un moment, il y a aussi des... ça devient très compliqué. Je veux dire, pour une personne qui est le maire, et parfois la commune est petite, d'être présent sur tous ces sujets, d'être formé, de savoir un peu quel est son rôle, quel est le rôle de sa ville.
Si vous permettez, sur le périscolaire, là, sur le...
Avec plaisir.
Alors, ce qu'on appelle souvent la restauration, mais quand on a parlé justement de la difficulté avec les encadrants, ça me permet de rappeler que l'essentiel du coût, c'est pas le prix du repas, parce que quelquefois les parents nous disent, mais vous vous rendez compte, 1, 2, 4, 5, des fois 8 euros pour un repas pour mon enfant, c'est énormément cher, c'est très cher. Mais en fait, l'essentiel du coup, c'est qu'on prend en charge les enfants souvent de 11h30 à 13h30. On s'en occupe. Alors, quelquefois, pas assez bien, mais on s'en occupe. Et c'est ça, l'essentiel du coup. Je crois que le prix du repas, il ne doit pas dépasser 30% à peu près du prix de revient, hein, plus. Voilà. Et ça, beaucoup de parents l'ont peut-être pas en tête. Ils ne s'en rendent pas compte. Et pourtant, ils le vivent, bien sûr, mais ils ne s'en rendent pas compte.
Et donc, je prolonge ou je repose ma question sur la diversité des sujets. Ce sont d'énormes de bâtis, d'énormes même d'espaces extérieurs. Je l'ai dit, ça va jusqu'à la laïcité.
Par exemple, la laïcité, c'est un sujet très, très difficile, qui est devenu très difficile, qui ne l'était sûrement pas il y a plusieurs dizaines d'années, mais qui est devenu assez difficile, où d'ailleurs les pouvoirs publics ont louvoyé. je crois que c'était Luc Chatel, quand il était ministre de l'Éducation, avait dit il n'est pas question que des mamans voilées accompagnent les sorties scolaires. Mais en 2013, le Conseil d'État a dit stop, les mamans, ce sont des usagères. Il n'y a pas trois catégories dans le service public. Il n'y a pas les agents, les usagers et les collaborateurs. Il n'y a que les agents et les usagers. Et les mamans sont des usagères. Et elles ne sont donc pas concernées par les restrictions liées à la laïcité, par exemple. Donc, voilà. Après, les maires, débrouillez-vous avec ça. Hein, c'est...
Et ce débrouillez-vous avec ça, on a l'impression que c'est souvent ça, finalement, qui arrive. Des réformes assez importantes hein, ont été décidées ces dernières années, parmi lesquelles, par exemple, l'école obligatoire dès la maternelle. Oui. Rendre l'école obligatoire dès 3 ans, finalement, c'est demander aux communes un effort parfois important, en tout cas de s'occuper d'un dossier, puisque c'est l'école maternelle dépend des communes.
Je crois, enfin, fondamentalement, je parle sous le contrôle de mais fondamentalement, ça n'a pas changé beaucoup le nombre d'élèves, parce que la plupart des enfants à 3 ans, ils y étaient, même quelquefois dans certaines communes, on commence à 2 ans. Où ça a fait une très grosse différence, mais là, c'est un point technique, c'est que les communes qui sont sièges d'écoles privées, elles ont l'obligation de financer la scolarité des élèves de leur commune. Tant que l'école maternelle n'était pas obligatoire, eh bien, elles n'étaient pas obligées de financer. Peut-être certaines le faisaient, mais elles n'étaient pas obligées. Maintenant, elles sont obligées de financer. Voilà. C'est ça que ça... Je crois que c'est le point essentiel que ça a changé. C'est pas tellement sur le nombre d'élèves scolarisés.
Mais c'est parfois un point important, hein, parce des écoles privées en France, qui sont largement donc, financées par à la fois l'État et les collectivités locales... Ça s'appelle privé, mais c'est sous contrat. Donc, le contrat, il est avec l'État. Évidemment, c'est une dépense publique. Rosane Merriam, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, d'ailleurs, il n'y a pas que ça. On a parlé donc école obligatoire à partir de 3 ans. Il y a aussi le sujet des fermetures de classes qui sont parfois décidées. Alors là, c'est pas l'État, hein, c'est le rectorat qui décide de fermer l'État. Des classes et parfois des écoles. Et voilà, le rectorat, c'est un peu l'État d'une certaine manière, mais bon, en tout cas, c'est l'administration scolaire. Et là, ça crée un conflit et finalement, ça fait partie, alors je ne sais pas si c'est le rôle des maires, mais en tout cas parfois des combats des élus, que d'essayer de maintenir des classes, voire des écoles.
Alors c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité parce qu'on fait face à une baisse de la démographie scolaire qui fait qu'on a un nombre d'enfants qui est on commence à voir la réduction du nombre d'enfants dans les différents territoires et donc effectivement la question des fermetures de classes elle va se poser dans les territoires. Alors c'est vécu toujours de manière assez difficile par les acteurs locaux de l'éducation nationale et parfois effectivement il va y avoir une mobilisation des parents.
Les acteurs locaux de l'éducation nationale, c'est les professeurs des écoles.
Oui, c'est ça, c'est les enseignants.
J'aime bien dire comme ça, en fait.
Oui, tout à fait. C'est les directeurs, directrices d'école et puis enseignants et enseignantes qui effectivement sont très attachés à maintenir effectivement le nombre de classes dans les écoles. Donc, il va falloir accompagner. Et là, ça va se faire à deux niveaux. Je pense qu'il faut que le ministère, ou en tout cas les services du ministère, accompagnent aussi leurs équipes dans cette démarche et par ailleurs qu'effectivement il y a un dialogue qui s'installe sur les territoires entre le maire, les écoles et les parents d'élèves pour rassurer sur la qualité d'enseignement et expliquer le contexte dans lequel on est d'une situation où on a une baisse d'effectifs dans les écoles qui légitimement pour le coup entraîne une fermeture de classe. Après on peut ça peut être considéré comme une contrainte, c'est aussi une opportunité. Ça peut être une opportunité de réduire le nombre d'enfants par classe. On a les classes dédoublées dans les quartiers politiques de la ville, mais ça n'existe pas partout avec des effectifs qui ont été réduits. C'est un élément qui peut constituer une opportunité, comme nous, dans nos territoires, le fait d'avoir des espaces dégagés dans nos écoles nous permet éventuellement aussi de restituer ces espaces, soit à nos accueils de loisirs, temps de loisirs de l'enfant, soit certaines villes expérimente aussi l'accueil de tout petits enfants, des crèches, dans les écoles.
Avec des classes passerelles qui existent parfois, mais on voit que ça peut être assez conflictuel hein, quand même, parce que vouloir maintenir une école ou une classe, ça peut être une bataille, parce que c'est pas les maires qui décident on va garder ces professeurs ou non, Daniel Charbonnage.
Tout à l'heure, je dis, j'avais pas le nombre d'élèves dans l'élémentaire, mais si, je l'avais. J'avais juste oublié que j'avais potassé ça. Et donc, par exemple, en 2022, il y avait 6 423 000 élèves dans le premier degré. Il y en a plus que 6 155 000 en 2025. Ça fait une chute de 4,2% et elle est régulière chaque année de 1,2, 1,3, 1,4%. Et ça va certainement continuer parce qu'on sait maintenant qu'on est rentré dans la phase de diminution du nombre de naissances. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, il y a quelquefois des combats pour garder des classes qui sont peut-être pas toujours aussi très réalistes parce que bon voilà
mais c'est très important d'avoir une école du point de vue du maire
oui bien sûr école ou classe c'est pas la même chose hein. D'ailleurs je crois que c'est peut-être le président actuel qui avait dit à la suite peut-être du grand débat il n'y aura plus de fermeture d'école sans l'accord du maire, mais il n'avait pas dit de fermeture de classe, ce qui est pas la même chose, on est bien d'accord.
Hein et donc de nombre d'enseignants présents, mais enfin
oui bien sûr.
C'est vraiment parfois difficile pour les élus, même s'ils sont soutenus par leurs administrés, de soutenir le maintien de suffisamment de classes ou d'écoles. À leurs yeux, évidemment, ça fait débat. Je voudrais quand même qu'on parle d'un sujet, puis ça va nous permettre de faire une petite pause qui est importante. On a dit, il y a plein de services, en fait. On a parlé des piscines, il y a aussi des services culturels, comme la médiathèque. Oui.
Qu'est-ce que vous avez à dire, mademoiselle ?
Moi, je veux me battre.
Contre moi ?
Contre tout le monde et contre personne.
Ah, et de quelle façon ?
En discutant, vous dites que vous êtes pour la discussion. Vous n'êtes pas trop pressé ?
Ah bah non, j'ai du temps, j'ai quelques minutes, ça va pas durer des heures.
Non, c'est très court.
Alors je t'écoute.
Moi, j'ai une théorie, mais vous êtes mal placé pour me comprendre.
Mal placé, mais pourquoi ?
Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui manque au village, encore plus que la médiathèque.
Mais quoi ?
Des espaces verts.
Des espaces verts ? Mais enfin, les espaces verts, il y en a partout ! On est entouré d'espaces verts, on est à la campagne.
Justement, il y en a dans les villes, mais pas dans les campagnes. Vous avez votre parc. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont à part leur tout petit jardin ? Quand je lis les histoires d'autrefois, je vois que les enfants allaient jouer dans les prés, qu'on pouvait cueillir des fleurs, chasser les papillons et les coccinelles. Maintenant, tout est clôturé avec des barbelés. Et puis, de toute façon, si on réussit à entrer, il y a des chiens qui vous courent après. Alors pourquoi les gens qui ont des enfants, iraient à la campagne s'il n'y a plus de prés, ni de champs, ni de bois, il n'y a plus rien.
Non, mais c'est pas si sot ce que vous dites. C'est même pas sot du tout, mademoiselle. En tout cas, je trouve ça formidable de ne pas avoir eu peur de m'en parler. Je trouve ça très bien. Et quel âge as-tu ?
10 ans.
Ah ben dis-moi, à 10 ans, je crois pas que j'aurais pensé de telles choses. En tout cas, je n'aurais pas parlé à une grande personne. Bon ben, je vous laisse, à tout à l'heure.
Au revoir. Au revoir.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Voilà, au lieu d'une pause musicale, on s'est offert une pause film avec Le Maire, l'Arbre et la médiathèque d'Éric Rohmer. Le film était sorti en 1993. On entend Pascal Grégory jouer le rôle d'un maire et une enfant qui lui pose des questions. On va revenir à la place des enfants. C'est important pour cette émission. Je voudrais aussi qu'on parle de ces services si importants, bibliothèque, médiathèque. Donc, en général, c'est la même chose. Services culturels, accueil. Finalement, ça aussi, c'est l'éducation. Ça doit parfois, ça devrait être en lien avec l'école. Tout ça, c'est le travail du ou de la maire, Daniel Charbonnel, encore plus aujourd'hui peut-être.
Oui, alors il y a une charte des médiathèques, enfin, des bibliothèques et des médiathèques communales qui, en effet, stipule que ces services-là doivent s'organiser pour accueillir les classes. Hein, en dehors des périodes de fréquentation, et avoir surtout un personnel qui se forme à cette activité-là. Parce que accueillir une classe, il y a les enseignants qui les accompagnent, mais la bibliothécaire ou la médiathécaire, je ne sais pas si on dit comme ça, sûrement d'ailleurs, eh bien, a un rôle très important à jouer dans l'animation de cette heure souvent, voilà.
Donc, qui est importante pour l'éducation.
Oui. Mais ça fait partie justement de l'élargissement en quelques dizaines d'années de la palette de services que les communes doivent fournir aux écoles.
C'est ça que je voulais avoir comme réponse.
Eh bien voilà, il fallait poser la question.
C'était quand même un peu ma question. Donc ça s'élargit énormément. Et est-ce que c'est plus compliqué du coup pour les maires et pour les services locaux de penser cette organisation?
Il y a 50 ans, l'école, ça se passait en grosso modo à l'école. Puis petit à petit, on a rajouté, en effet, il faut aller à la piscine, il faut aller à la médiathèque, il faut faire... des sorties, il y en avait déjà, mais on a rajouté des obligations. Rosen parlait du savoir nager, même du savoir rouler à vélo. C'est tout du temps que les... Alors là, c'est les enseignants, souvent, qui bien sûr, qui doivent s'impliquer, mais pour vous l'avez évoqué, la question des piscines, mais il y a un problème de lignes d'eau disponibles en semaine pour les écoles dans énormément de communes, les communes importantes sûrement, et puis au niveau plus région, ça va être les intercommunalités qui ont souvent les piscines, oui. Et puis les transports scolaires. Alors les transports scolaires, en effet, les communes ont à payer les transports pour faire les sorties, les transports pour aller à la piscine, les transports pour aller à la médiathèque si elle est loin, etc., etc. Après, des transports d'élèves proprement dit en élémentaire, il y en a surtout dans les zones rurales où il y a des regroupements pédagogiques, où il n'y a pas une école dans chaque commune, donc il faut en effet transporter les élèves. Autrement, dans beaucoup de communes, c'est pas dans toutes les communes qu'il y a du transport d'élèves en tant que tel pour aller à l'école ou en revenir.
Et parfois, il y a moins de transport scolaire par exemple vers les piscines parce que ce coût s'est considérablement renchéri. On le sait pas forcément, mais aujourd'hui, les transports scolaires coûtent infiniment plus cher. J'ai pas le pourcentage exact, mais c'est assez impressionnant qu'il y a par exemple une dizaine d'années, Rosane Marien, mais pour revenir à la culture, en fait, c'est les mêmes dossiers souvent dans les villes, éducation, jeunesse, sport, culture.
Tout à fait. C'est effectivement, il y a toute l'évolution des propositions municipales sur le temps scolaire, et puis il y a tout ce qui se fait aussi en dehors du temps scolaire. Les enfants, ils vont passer à peu près 900 heures par an à l'école, et ils vont passer le double, en fait, dans les temps de loisirs de l'enfant, donc dans le cadre des associations, dans le cadre des accueils de loisirs, des centres de vacances et autres. Donc, en fait, le boulot du maire ou le boulot de la maire aujourd'hui, c'est d'articuler l'ensemble de ces politiques publiques, à la fois sur le temps scolaire, mais également à l'extérieur du temps scolaire, et à la fois d'articuler tous ces champs, que ce soit l'éducation, le sport, la culture, dans le temps scolaire, mais également d'articuler ces différents temps entre eux. Parce que ce qui va se faire, par exemple, dans le cadre d'un projet d'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire, va pouvoir trouver son complément dans le temps de l'accueil de loisirs et venir renforcer, en fait, l'apprentissage de l'enfant.
Dans l'idéal, parce que ça, oui, c'est une situation un peu idéale, mais c'est bien d'y penser comme ça. C'est pas toujours le cas. Ça veut dire aussi qu'au niveau local se réalise ce qui n'existe pas au niveau national. C'est-à-dire qu'on n'a pas un ministère de l'éducation et puis d'autres... un ministère qui serait local, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là où c'est découpé au niveau de l'État, c'est complètement réuni quand on parle de la vie quotidienne.
Et c'est pour ça que quand vous dites c'est un idéal, c'est pas qu'un idéal, c'est une réalité. Alors avec des degrés effectivement différents en fonction des territoires, mais nos projets éducatifs de territoire, ils relient ces politiques publiques et ils relient les acteurs. Donc ils mettent en discussion les acteurs. Donc c'est ça qui fait qu'on passe d'une forme d'utopie à une réalité à partir du moment où les acteurs éducatifs, animateurs, ATSEM, enseignants, se mettent autour de la table et discutent dans l'intérêt de l'enfant, pour le projet de l'enfant. Et on arrive vraiment à avoir des projets qui sont des projets construits de manière partagée.
Rapidement, Daniel Charbonnel.
Oui, tout à fait. En effet, le projet éducatif du territoire, le PEDT dans les jargons.
Ça peut être ville, ça peut être rural.
Oui, non, c'est très important parce que ça met autour de la table tous les acteurs, depuis ceux qui sont à l'intérieur de l'école, les enseignants, nos formateurs, nos animateurs, ça met tout le monde. Ça fait un état des lieux des moyens disponibles, un projet pédagogique, enfin oui, un projet, et puis on essaye de faire vivre ça de façon multidimensionnelle, on va dire.
Et ça débloque des moyens. Hein. Ces projets éducatifs locaux, c'est aussi une manière de demander des financements pour des sujets en particulier. Ça pose plein de questions d'organisation de l'école. Il y a un sujet dont je voulais absolument parler, c'est la place des enfants. On entendait dans ce son du film d'Éric Rohmer une enfant s'exprimer. L'expression des enfants, aujourd'hui, ça se développe, enfin plus ou moins, parce que les conseils municipaux d'enfants, ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas en France, il y en a 1500 et je voulais en parler aujourd'hui.
J'ai voulu être candidat pour partager et transmettre les idées de mes camarades.
Je travaille dans la commission Solidarité. On essaye de trouver des moyens pour aider les Ukrainiens et on est en train de travailler sur des box. Dedans, bah, y a des fournitures scolaires, des crayons, des cahiers, tout ce dont ils ont besoin pour aller à l'école.
Je fais partie de la commission Mangeons mieux. Je travaille en ce moment à réfléchir sur les plats de la cantine qui soient bio et local. Et aussi, je réfléchis au gaspillage.
La chose que j'ai préférée le plus, c'est de pouvoir m'exprimer face au maire et pouvoir dire certaines choses que je n'aurais pas pu lui dire avant.
Je dirais que on peut transmettre les idées de ses amis pour qu'elles puissent être réalisées. Et aussi, au conseil municipal, il ne faut pas hésiter à dire vos idées car elles peuvent être géniales.
Et oui, elles peuvent être géniales, les idées des enfants dans ces conseils municipaux que vous promouvez. Étienne Butzbach, en fait, vous faites partie d'un collectif d'associations qui défend aussi la mise en place d'une délégation aux droits des enfants au sein de chaque commune. Dans le droit des enfants, il y a l'écoute des enfants, c'est un droit très important. Est-ce que vous pensez que ça avance vraiment de ce point de vue-là aujourd'hui? Je sais qu'il y a des réunions aujourd'hui avec l'association des maires français. Vous essayez d'avoir de l'écoute, mais êtes-vous entendu?
Qui est en train de se créer au niveau de cette question de la délégation des droits des enfants. On a évoqué.
Bah écoutez, on vous entend trop mal, je suis désolée. En tout cas, on peut dire que ça se développe et que 53 associations sont engagées pour promouvoir cette question. Mais est-ce qu'on forme, Daniel Charbonnel, les élus pour mettre en place ces conseils municipaux, que ce ne soit pas des coquilles vides? Parce que pas écouter les enfants, c'est encore plus grave que de ne pas proposer de conseil municipal des enfants.
Pour ma part, alors dans le cadre de l'Association des maires de l'Isère, qui est l'organisme formateur des formateurs, moi je suis un prestataire, je propose une formation d'une demi-journée sur la mise en place des conseils municipaux d'enfants et de jeunes.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien?
Surtout d'enfants. Alors, il y a déjà la première question qui se pose, c'est comment on fait pour le mettre en place, pour le créer. Mais la deuxième question qui est encore plus importante, c'est en effet, qu'est-ce que l'on fait une fois qu'il existe pour l'animer? Parce que si on le met en place et puis qu'on ne l'anime pas, c'est pas la peine. Il faut pas y aller. Mais ça se développe. Il y a quand même de plus en plus de communes qui mettent en place les conseils municipaux d'enfants, qui les animent quand même bien, hein, en effet. Alors. C'est complexe, un conseil municipal d'enfants, parce que c'est un conseil municipal où les enfants, on leur demande leur avis sur un certain nombre de choses, on crée des commissions pour qu'ils fassent des propositions. Mais je crois, moi aussi, que c'est aussi l'occasion de les intéresser à la marche de la commune, à leur faire visiter les services, à leur expliquer comment ça marche.
C'est aussi une éducation.
À les faire assister à un conseil municipal.
Rosane Mérien, est-ce que les enfants peuvent avoir des idées géniales? Est-ce qu'on peut les écouter vraiment?
Alors, ils ont des idées géniales parce que c'est toutes les idées qu'on n'a pas eues, en fait. Notamment pour régler plein de difficultés, je pense notamment aux enjeux de transition écologique. Enfin, il y a plein d'éléments qu'on n'arrive pas à régler. La sécurité dans la ville. Enfin, voilà. Ils ont des demandes, en fait, qui sont proches de leur quotidien et qui sont vraiment au cœur de leur vie en tant que citoyens et citoyennes sur les territoires. Donc oui, des idées géniales, ils en ont. La question des rues aux écoles, par exemple, où on va sécuriser les espaces aux abords des écoles. Ils ont aussi une réelle prise de conscience sur les enjeux de gâchis alimentaires qui sont aussi dans leur quotidien. La place des animaux en ville, on a des enfants qui vont développer des hôtels à insectes. Enfin, il y a plein d'idées en fait qu'on développe dans nos villes qui sont issues d'idées qui émergent des enfants à travers les conseils municipaux d'enfants. Mais je crois que ce qu'il faut interroger aussi, c'est la place de l'enfant dans chacune des structures qu'il fréquente. Donc l'école, on a des conseils d'usagers dans certaines écoles, j'en ai vu, des conseils d'usagers et d'usagères enfants dans les accueils de loisirs, où en fait on va aussi interroger les enfants et leur laisser la parole sur le fonctionnement des lieux où ils vivent.
Mais je crois qu'on va y revenir à cette question de l'écoute des enfants après leur place dans la ville. Merci beaucoup Rosane Merrien, merci beaucoup Daniel Charbonnel. On s'excuse auprès d'Étienne Butzbach, on l'entendait vraiment trop mal pour assurer cette liaison. Et on remercie Avril Ventura qui est adjointe à la production, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, de l'émission. Louise André à la réalisation et Olivier Arnay à la prise de son de ce numéro d'Être et Savoir.